Marceau, le midi, avec Yann Marceau et Pascal Cyr.
Midi 42, Pascal, est-ce que t'as commencé ton pool boulevard?
Non, je suis pas sûr que je vais me lancer là-dedans.
Canadien des séries, là.
Je comprends, mais au foot, je me sentirais moins imposteur. En même temps, on me dit que ce pool-là qui est organisé par boulevard est accessible à tout le monde.
Ben oui, exact. Puis t'as 500$ à gagner chez Fromagerie Victoria qui va être offert au grand gagnant. Fait que si tu veux te risquer ou si tu veux faire appel à tes collègues pour t'aider, on peut t'aider, mais il va falloir partager le 500$ chez Fromagerie Victoria. Ouais.
Ben je ferai appel peut-être plus à des amis à l'extérieur de la station parce que est-ce que j'ai confiance en vous pour m'aider ou vous allez m'orienter vers le mal et les mauvaises réponses? Vous seriez capable.
Ben non, mais moi, je vois une opportunité, une chance et demie de gagner okay. Si je participe moi-même. Quoique moi, j'ai pas le droit de gagner le 500$ de chez Fromagerie Victoria, bien que je représente cette entreprise-là, mais c'est pas grave. Allez faire un tour sur marqueur.com, inscrivez BLVD 2025 dans l'onglet. Et bien sûr que vous devrez créer un compte marqueur et faire vos choix pour être inscrit au pool. Et la formule est assez simple, c'est 18 rondes dans lesquelles vous devez choisir un joueur parmi 5 choix. La série de la Ligue nationale de hockey, les séries de la Ligue nationale de hockey s'amorcent ce samedi 19 avril à 18h. Donc niaisez pas avec le puck et allez vous inscrire dès maintenant. Bonne chance à tous, vous en aurez besoin pour espérer mettre la main sur le fameux 500$ de la Fromagerie Victoria. Merci à toute la gang, soit dit en passant, d'embarquer dans nos patentes de la Fromagerie Victoria. C'est belle fun. Fromagerie Victoria, un peu comme les Leclerc, on est familial depuis des décennies et des décennies. Il est avec nous au téléphone. On va parler de politique. Son nom, c'est Lambert Drainville. Salut, Lambert.
Salut.
Merci d'être avec nous. Content de te jaser. On s'était parlé pendant quoi? Plus de 60 minutes dans Marceau soir, puis les auditeurs t'avaient grandement apprécié. T'es un gars qui suit la politique comme pas possible. Ton père fait de la politique depuis des années et des années. Puis toi, ben aussi, oui. Dans les dernières années, t'as fait de la politique. Fait que j'imagine que t'étais très alerte hier sur le fameux débat des chefs.
Absolument. J'ai écouté ça. Jusqu'à temps que ça se termine. Après ça, j'ai transféré pour être bien honnête, Yannick. Je suis un gros fan du Canadien aussi, fait que j'ai transféré du côté d'RDS après le match, mais c'est après le débat. Mais pour un gros fan de politique et de hockey comme moi, laisse-moi dire que c'était une belle soirée hier. Toi, tu l'as écouté aussi?
Oui, j'ai écouté ça. Ça a bien été. J'étais content que le Canadien fasse les séries. J'aurais aimé qu'on soit meilleur dans les derniers matchs pour annoncer plus rapidement qu'on soit des séries éliminatoires. Mais le dernier match, 82e match de l'année, c'est fait. On est dans les séries. Puis là, bon, on passe à d'autres choses. Et tout est possible, mon Lambert!
Absolument! L'espoir est bien en vie.
OK, hey, on va faire passer quelques extraits là, au niveau, en raison du débat des chefs. Mais voici comment la soirée a débuté hier, Lambert.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au débat des chefs en français.
Tantôt, on m'a demandé c'était quoi mes 4 étoiles de la soirée, mais je vais en donner 5 parce que j'avais dit que ma première étoile, c'était Yves-François Blanchet. De un, il était le seul dans sa langue maternelle, mais de deux, il s'est bien exprimé. Il a parlé des besoins du Québec, il a défendu le Québec, donc je l'aurais mis première étoile. Mais tu sais quoi, Lambert? Je pense que Patrice Roy pourrait être la première étoile du match d'hier.
Absolument, puis... Moi, c'est ça. Et François est ma première étoile, mais j'ai qualifié Patrice Roy de mon MVP, mon joueur le plus utile. Ouais, je le trouve très bon. Il est toujours, évidemment, super bien préparé. Il paraît bien, il s'exprime bien. Puis j'ai beaucoup aimé hier ce qu'il a fait. C'est plutôt rare que tu vois des modérateurs passer des messages comme il l'a fait hier. Je sais pas si on a l'extrait, mais il a envoyé un message clair là, par rapport au cadre budgétaire des différents partis.
Oui, je l'ai ici. Je te fais jouer ça à l'instant.
C'est quand même inédit, en tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, d'être au débat des chefs et on n'a pas le coût de vos promesses. Donc, on ne sait pas comment vous allez financer vos baisses d'impôts. Est-ce que c'est pas, et je mesure mes mots, totalement irresponsable devant l'électorat canadien? Vous dites, M. Carney, que vous adorez les chiffres. Où sont, messieurs, vos cadres financiers?
Où sont vos codes financiers? Puis toi qui as travaillé en politique, là, est-ce que c'est une stratégie qu'on a utilisée? On s'est dit, ben les libéraux sont dans l'embarras, on va attendre de voir eux, qu'est-ce qu'ils vont faire avant, puis après ça, on va s'ajuster?
C'est sûr que oui. C'est sûr que le fait de déposer les cadres budgétaires dans la dernière semaine avant le vote, c'est un choix qui est stratégique, c'est un choix qui a été fait par les différentes équipes. Puis, laisse-moi te faire une prédiction, là, Yannick, là, parce que on la suit la campagne depuis le début. Puis, on le voyait encore hier, il y a un paquet de promesses qui sont faites, il y a des baisses d'impôts, on enlève la TPS sur les voitures, du côté du NPD, sur les biens essentiels. T'sais, fait que d'un côté, au gouvernement, on s'empêche de ramasser des millions, voire des milliards de dollars. Et de l'autre côté, bien, on dit qu'on va dépenser, puis dépenser encore plus dans des baisses d'impôts ou dans des nouveaux programmes. Fait que là, à un moment donné, comment tu vas faire arriver ça? Puis, tu sais, la cerise sur le sundae, c'est que les partis disent en plus qu'ils ont une sensibilité pour le retour à l'équilibre budgétaire. Je me disais, Yannick, que je te prédis que ça va être une de la haute voltige, de la grande gymnastique, ces cadres budgétaires-là. Pis c'est malheureux parce que ça aurait dû être fait avant le débat. On aurait dû savoir comment les partis vont financer leurs différentes promesses parce que là, c'est des promesses en l'air. On lance ça. Les électeurs essayent de se faire une tête. Puis, bien honnêtement, entre toi et moi, c'est un peu prendre les gens pour des cadres.
Mais toi, tu le vois comme un manque de préparation. Lambert, à propos justement du cadre financier, disait « Hey, t'es pas arrivé avec ton cadre financier ». Avec les tarifs de Donald Trump, avec la situation à l'international, l'enjeu économique, c'est pas mal le principal. Il me semble qu'on ait peut-être choisi de pas aller là et de pas présenter un budget en disant peut-être que les autres vont copier ou les autres vont avoir mieux. Fait qu'on va s'exposer avant le vote. Mais rendu à la toute fin comme ça de la campagne électorale, est-ce que ce n'est pas un choix du genre on n'a pas assez d'informations, on peut pas fournir ça ou c'est vraiment un choix du genre ça nous tente pas d'aller là, c'est peut-être nous mettre dans le pétrin?
Non, je veux dire, les propositions sont réfléchies avant le début de la campagne. T'sais, avant que la campagne s'amorce, les propositions sont décidées. Les propositions, dans une certaine mesure, on a une idée de leur hauteur, à quel point on les chiffre, on sait combien ça vaut. On a une idée des grandes lignes du cadre budgétaire. Puis après ça, ben on s'ajuste en cours de route en fonction des différents événements qui arrivent durant la campagne. Mais en tant que tel, les partis choisissent de le déposer sur le tard. Et c'est malheureux. Écoute, on est 62 milliards dans le déficit présentement. T'sais, on amorce une guerre commerciale avec les États-Unis alors qu'on est déjà dans le rouge jusqu'au cou. Je m'aurais attendu, surtout d'un gars qui a été critique économiquement comme M. Poiliev et évidemment d'un gars qui a été dirigeant de deux grandes banques centrales comme M. Carney, qu'il y ait une plus grosse hauteur, une plus grosse rigueur par rapport à la gestion des finances publiques. Jour 1 de la campagne, c'était la bagarre des baisses d'impôts. C'est comme si c'était rendu obligatoire de donner un petit nanane aux électeurs en début de campagne parce que tu veux pas être le seul parti qui en donne pas de petit nanane. Ça aurait été le fun d'avoir un parti qui est capable de être en hauteur, d'être pragmatique puis de dire, écoutez, messieurs, dames, là, nous, on n'en offre pas de baisse d'impôts parce que, comme vous l'avez vu, justement, on est 62 milliards dans le trou déjà et les prochaines années s'annoncent compliquées, alors on va être responsable. Le seul parti qui n'en a pas proposé, Yannick et Pascal, lequel est-il?
Jack Meade?
Non, le seul parti qui n'a pas proposé de baisse d'impôts, c'est le Bloc québécois.
Ah, OK, pour les... oui, mais le Bloc québécois n'a pas proposé grand-chose jusqu'à maintenant. Il est un peu absent de sa campagne. Est-ce que ça tue un lien? Est-ce que, je veux dire, le gars, il a débattu comme un chef réellement hier qu'on ne vote ou pas pour lui, mais il n'a pas proposé grand-chose, là?
Ben, la vérité, c'est que les partis proposent quasi chaque jour une mesure. Là. Fait que les partis, dans le moment, ont pratiquement tous proposé un nombre équivalent de promesses. C'est juste qu'ils ont plus de difficultés à se faire entendre. T'sais, c'est une campagne qui est particulière pour tous les partis d'opposition. Bon, M. Poiliev est l'aspirant premier ministre, donc a un petit peu plus de visibilité que le NPD et le Bloc, mais on se cachera pas que la situation avec Trump... envoie les projecteurs dans une très, très large proportion sur Mark Carney, qui n'hésite pas d'ailleurs, lui et son équipe, dès qu'ils en ont la chance, à remettre leur chapeau de premier ministre et de un petit peu prendre un pas de recul sur la campagne, puis remettre, comme je disais, le chapeau de premier ministre. C'est très avantageux présentement
pour M.
Carney dans une élection où, justement, ce que les gens veulent, c'est trouver quelqu'un qui va être capable de négocier face à Trump.
Ouais.
Voilà.
Je veux revenir sur le cadre financier. Bon, ils en ont pas. On est en période d'incertitude économique. On est en négociation avec le Grand Orange, l'autre bord. Mis à part les opinionneux, là, que ce soit à la radio, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé ou dans les journaux, moi, je vois pas de gens qui sont outrés de ça. Est-ce que les partis se sont tout simplement ajustés à l'électorat? C'est-à-dire, on sait très bien qu'au départ, l'électorat veut pas perdre ses acquis. T'sais, je pense aux personnes peut-être un peu plus âgées qui sont en fin de carrière. Eux autres, ils veulent pas perdre leur job au gouvernement, puis ils veulent pas se faire dire par un futur chef de parti, savez-vous quoi, on va couper dans la fonction publique. Fait qu'ils font juste abstraction de ça, puis c'est go with the flow, puis à un moment donné, les élections vont arriver, puis on va mettre un nouveau chef de parti qui va être là, puis ce sera à lui de couper rendu à ce moment-là. Parce que les quatre le fassent, moi, ça m'impressionne grandement.
Absolument. Tu sais, c'est sûr que c'est réfléchi, puis c'est sûr que le calcul qu'ils se font, ces partis-là, c'est de proposer des baisses d'impôts et ne pas présenter leur cadre budgétaire avant la dernière semaine de la campagne. C'est plus bénéfique pour eux que ça va leur faire mal par rapport à l'opinion publique. Puis c'est pour ça que c'est important, je pense, pour nous autres d'en parler. Je pense que c'est pour ça que c'est important pour Patrice de en faire mention puis de sortir un petit peu de son rôle de modérateur pour passer le message aux gens qui sont à l'écoute, parce que c'est quelque chose qu'il faut considérer. Les gens doivent être au courant de ça, puis faut ramener aussi ce sérieux-là, là, cette importance-là. Là. Si les électeurs parviennent à envoyer un certain message à ce niveau-là aux différents partis lors du vote, ben moi, j'ai tendance à penser que dans les prochaines élections, leur changement, leur attitude puis leur comportement par rapport à ça va changer. Mais comme on se disait en introduction, Yannick, si les partis décident d'opter pour cette stratégie-là, c'est parce qu'ils jugent que justement, ça leur fera pas mal. C'est aux électeurs de leur prouver qu'ils ont tort.
Donc, Patrice Roy a bien performé, il a fait sa job. Et François Blanchette, ben, c'est ma première étoile à moi, toi et plusieurs autres là, qui se sont prononcés sur la soirée d'hier. Et comme tu le dis, le seul chef de parti qui ne s'est pas prononcé sur des baisses d'impôts, c'est Yves-François Blanchette. Et on a un extrait.
J'ai un problème, j'appelle ça des cadres financiers Harry Potter, des budgets Harry Potter. Il faut faire de la magie, là. On veut mettre plus d'argent, on veut couper en même temps. On va être plus conservateurs que les conservateurs. C'est pour ça que nous, on dit pas « baisser les impôts ». On dit « faites les bons investissements publics ».
Le budget Harry Potter.
Oui, absolument. C'est un peu ça. C'est un peu ce qu'on disait. Tu sais, il y a plein de promesses. Il y a plein d'engagements par rapport à pas de TPS d'un côté sur telle affaire. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des entrées d'argent que le gouvernement n'aura pas. Et après ça, on annonce des nouveaux programmes, des nouveaux projets, un paquet d'affaires. Fait que tu as moins d'argent qui rentre. Tu dis que tu vas dépenser pour des nouveaux programmes, donc tu as plus d'argent qui sort. Puis après ça, ben tu dis que l'équilibre budgétaire, c'est quelque chose d'important pour toi. Permets-moi de douter fortement, comme le fait M. Blanchette. C'est vraiment des budgets Harry Potter. Puis comme je te disais plus tôt, d'après moi, ça va être de la haute voltige et ça va être du grand poudlard, les cadres budgétaires qu'on va voir la semaine prochaine. Je pense qu'il y a un autre extrait aussi, Yannick, sur Yves-François avec Carney aussi. Là, quand on dit qu'il était bon en débat, là, pour répondre du tac au tac, j'ai envoyé un extrait à Pascal plus tôt. Je pense que c'est un bel exemple de ça.
Cette élection, la question qui va succéder et qui vont faire face à M. Trump?
C'est quand même les mêmes partis, les mêmes ministres, le même caucus, la même idéologie, la même hostilité aux valeurs québécoises. C'est pas parce que tu changes le chef que la philosophie à laquelle vous avez contribué va se transformer du jour au lendemain.
Moi, quand j'ai entendu Yves-François Blanchette dire ça à Carney, j'entendais pif, paf, pouf, paf, pif, paf, pouf, paf, puis Carney avait pas de défense.
Ah, mais il est tellement capable d'être fluide, il est tellement capable d'aller dans spontanéité. Yves-François Blanchette, c'est toujours son point d'ancrage à un débat comme celui-là. Je me demande s'il attend le débat pour être capable d'être en campagne. Puis, tu sais, tantôt, tu nous posais la question, qui n'a pas proposé de baisse d'impôts? Mais moi, Jack Meade a tellement pas été présent et fort que j'aurais pu croire que c'est lui, en ayant écouté le débat au complet.
Ouais. Mais Carney était sur la défensive là, tout le long, puis quand Yves-François Blanchette le bombardait comme ça, j'étais là, ah ouais, lève ta garde, lève ta garde!
Mais je pense pas qu'il comprenait tout.
Il a jamais levé la garde, il a juste reçu les coups sans jamais les renvoyer. Là.
Puis c'est pas ça sa game, hein?
Non.
Lui, c'était un match défensif, il jouait la trappe, lui, il avait tout à perdre, et rien à gagner là, hier, dans le sens où il est déjà premier dans la course. La seule chose qu'il souhaitait éviter, évidemment, c'est se mettre les pieds dans la bouche, c'est de faire une bourde qui aurait pu ouvrir la porte à un retour des conservateurs dans cette campagne-là. Il en sort indemne. Il n'a pas été, comme tu disais, transcendant. Il n'a pas été fantastique. On peut quand même, je pense, lui donner une tape dans le dos pour son français. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais c'était très, très difficile là, il y a quelques mois, quelques semaines de cela. On en parlait, puis moi, j'avais vraiment encerclé au crayon rouge la date du débat en français. Ouais. D'ailleurs, quand il avait refusé de faire le face-à-face à TVA, c'était clairement, encore une fois, une décision de ses conseillers qui ne souhaitait pas l'exposer pour une deuxième fois en français. Mais pour ce qui est de la langue, j'ai trouvé quand même qu'il y avait une grosse amélioration de son côté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé.
Ben, le débat de Radio-Canada est très encadré. Les questions étaient fournies d'avance aux équipes.
Ouais,
donc, les réponses étaient écrites d'avance aussi. Puis je pense qu'il a appris les réponses par cœur. Mais j'aurais préféré, moi, le fameux débat à TVA où tu ne sais pas qu'est-ce qui va sortir quand les deux sont un en face de l'autre. Mais effectivement, son français, à mes oreilles, à moi, peut-être qu'il était ultra préparé, mais il s'est grandement amélioré. Puis ça, ben, c'est un plus pour moi.
Absolument. T'sais, c'est comme on l'a tellement entendu, là, que ce soit des politiciens ou même des joueurs de hockey qui aboutissent à Montréal puis qui disent que là, on va apprendre le français, puis je vais faire des cours. Écoute, le PDG d'Air Canada, le name it, là, la liste est infinie. Puis finalement, c'est 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, rappelle-toi Mary Simon, la gouverneure générale qui parlait inuktitut et anglais, là, nommée par Justin Trudeau, qui a dit qu'elle apprendrait le français à ce jour. Aux dernières nouvelles, elle ne parle pas plus français qu'elle parlait quand elle a été nommée. Fait que c'est comme quand même le fun de voir que, bon, lui, il a dit qu'il l'apprendrait, puis on voit quand même une progression rapide dans son cas. Fait que ça, je trouve ça chouette. Puis tu sais, il est rentré rapidement. Tu sais, un des points d'interrogation qu'on avait pour Carney, c'était depuis le début de la campagne, c'était beaucoup sa sensibilité puis sa compréhension de la différence québécoise. Puis il est rentré rapidement dans le débat avec une réponse puis une affirmation qui était clairement préparée, mais que je trouvais bonne là, pour justement un peu venir briser ce narratif-là, comme quoi il manquerait de sensibilité. Pascal, je pense qu'on a l'extrait aussi.
Oui.
Signe, il faut commencer par dire des choses qui ne seront jamais sur la table. La langue française, la culture québécoise et la gestion de l'offre. Jamais sur la table. Nos ressources.
Fait que ça, c'est un moment fort, ça.
Ben, c'est comme je te dis, des moments forts, moi, je trouve pas qu'il y en a eu tant que ça. T'sais, chacun a eu leur petit moment. Je trouve que Yves-François est celui qui avait le plus de moments qu'on aurait pu sortir et faire des clips avec parce que, bon, c'est sa langue, il est super à l'aise, c'est comme un poisson dans l'eau, puis il est très bon pour répondre du tac au tac. Mais je trouvais que d'ouvrir rapidement pour Carney puis de dire, hey, regardez, là, dans toute l'histoire avec les États-Unis, les négociations, la gestion de l'offre, la culture, la langue française, les ressources, ce sera jamais en danger. Entre vous et moi, là, si M. Trump arrive à la table le 29 avril, le lendemain de l'élection, puis il dit, écoute, mon petit chum Carney, là, moi, ta gestion de l'offre puis tes tarifs pour pas que mes agriculteurs puissent rentrer dans le marché du lait canadien, là, ça me tape vraiment ses nerfs, puis tu vas m'enlever ça. J'ai l'impression qu'une fois élu, ça risque d'être difficile pour lui d'imposer à Trump sa volonté.
Il va peut-être plier.
Vous et moi.
Puis ils ont des affaires aussi, les deux ensemble, qu'ils souhaitent aller chercher. Puis dans ça, moi, ce que je dis en début d'émission, c'est que le débat va me laisser orpheline politique encore au fédéral. Et beaucoup d'auditeurs ont répondu à ça en disant « Hey, moi, ça m'a juste appris pour qui je n'irai pas voter. » Puis encore là, il me reste personne au final.
Oui, mais tu sais, je le dis, là, la boussole électorale pour savoir vers où vous penchez, c'est un très, très bon outil. Donc, vous pouvez aller faire un tour là. C'est drôle, Lambert, parce que toi, tu as mis Carney en deuxième étoile. Moi, j'ai mis Poilievre deuxième étoile, Carney troisième étoile, parce que Carney était constamment sur la défensive. Passons donc à Pierre Poilievre. Est-ce que c'est une performance qui... est-ce qu'il y a eu la performance que tu croyais qu'il allait avoir?
Non. Non. Puis sais-tu quoi? J'ai de la difficulté un petit peu à comprendre quelle elle était, sa stratégie. Hier, je ne l'ai pas trouvé mauvais, je ne l'ai pas trouvé bon. J'ai trouvé qu'il était là, j'ai trouvé qu'il a répondu, qu'il nous a dit ce à quoi on s'attendait qu'il dise. C'est un peu ce qu'il dit depuis le début. Tu sais, moi, je voyais, surtout avec l'entrevue qu'il a donnée à Guy Lepage en fin de semaine, moi, j'avais parlé dans les précédentes semaines que Poilievre, là, je comprenais pas sa stratégie, puis sa stratégie, ça devait être celle de se positionner comme un homme d'État, comme le futur premier ministre, de lâcher sa politique négative, sa politique de chef de l'opposition, puis de s'amener en hauteur pour envoyer le message aux Canadiens, pour qui la question la plus importante, c'est qui va faire face à Trump, mais leur montrer que lui, il est la meilleure personne pour faire face à Trump. Je trouvais qu'il avait été bon à ce niveau-là, tout le monde en parle, je trouvais qu'il avait été plus humain, plus chaleureux, plus comique, plus dans le moment, plus, tu sais, plus dans le style d'un gars qu'on irait prendre une bière avec. Puis je me disais, ah, vois-tu, si il amène cette attitude-là au débat, moi, je pense qu'il va, il va envoyer un message qui clash un peu avec l'image que beaucoup de Québécois ont de lui, de quelqu'un qui est un peu froid, qui est très de droite, tu sais. C'est un gars qui, dans le passé, moi, en suivant ça, quand j'étais à Ottawa sur la colline parlementaire, ça me sautait aux yeux, là. C'est un parlementaire, c'est un politicien qui est extrêmement efficace, qui est très, très bon. Puis je m'attendais à ce qu'on voit plus de ce Pierre Poilievre-là. Puis hier, ben franchement, autant que j'ai pas vu ça, autant que son autre objectif, c'était évidemment de faire perdre des points à Mark Carney et d'y mettre des bâtons dans les roues, puis il n'est pas arrivé non plus. Il essayait, tu voyais qu'il essayait, mais c'était pas naturel, c'était pré-marché, c'était robotique. Bref, c'est un peu ça là, qui m'est resté. Comme je te dis, c'est rien de catastrophique. C'est pas qu'il a été hyper mauvais, c'est juste qu'il a été... Voilà. Puis j'ai même on a un extrait aussi pour un peu démontrer ça. Là.
Avec vous, ceux et celles qui ont de misère à acheter des épiceries ou des jeunes qui ne peuvent pas acheter une maison après une décennie inflationniste libérale où les politiques des libéraux ont augmenté le coût de la vie.
Effectivement, c'est un bon moment ça pour Pierre Poilievre. On le sentait peut-être un peu plus humain. On lui a reproché d'être froid dans les derniers mois, puis d'être constamment dans l'opposition, alors que c'est un peu le rôle là, quand on est dans l'opposition, de pousser le gouvernement à s'améliorer. Mais ce petit moment-là de Pierre Poilievre a été un moment fort. On n'a pas le temps pour passer la dernière clip de Jack Meetsing, mais est-ce que tu crois qu'après ces élections-ci, avec une mauvaise performance, c'est terminé pour lui en tant que chef de ce parti-là?
Ah, écoute, Yannick, moi, je vais t'avouer là, que je sais pas ce qu'il faisait là, mais franchement, je sais pas ce qu'il faisait là au début de l'élection. On comprend pas, on saisit pas, ça passe pas, on sait pas pourquoi il est là. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est pour moi clairement le chant du cygne, mon cher Yannick.
Lambert Drainville, c'est un...
ça n'avait pas catch.
Ça a été un plaisir.
Ouais, c'est ça. Hey, toujours un plaisir, les amis.
Passe une belle semaine, pour le plaisir de t'en parler.
Yes, bye-bye.
Bye-bye. C'est drôle, hein, les perceptions, parce que, on mettait des étoiles, là, puis effectivement, tu sais, avec Denis, je me suis aperçu que la première étoile du débat des chefs d'hier, c'est vraiment Patrice Roy, qui a fait vraiment une belle job comparativement, des fois, à des débats où tu as un petit peu plus de difficultés avec la personne qui gère le débat. Lui, hier, ça a très, très bien été. Mon deuxième, c'était Yves-François Blanchette. Mon troisième, c'était Pierre Poilievre, alors que pour Lambert Drainville, c'était Mark Carney, et ainsi de suite. Là. Nous autres, on a inversé nos autres choix. Puis toi, tu étais à peu près les trois derniers, toi, c'était égal. Là. Carney, Poilievre, puis Jack Meetsing.
Non, pas du
égal.
Tout. En fait, j'ai pas compté Patrice là-dedans. Là. J'ai compté le premier, Yves-François Blanchette, puis j'avais mis ex-écho. Pierre Poilievre et Carney, okay. Pour des forces et des faiblesses qui sont différentes. Puis j'avais terminé avec Jack Meade en disant, moi, ce gars-là, je pense que c'est fini. Et j'entends Bernard Drainville, j'entends son fils, Lambert Drainville, dire ça. C'est un gars, je veux dire, que personnellement, je pense que c'est une bonne personne. Mais au niveau politique, qu'est-ce qu'il a amené au courant des dernières années? À part son entente avec les libéraux qui, finalement, a tiré dans le pied du parti.
Exact.
Quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté?
Absolument.
Des trends sur TikTok?
Mais il va avoir sa retraite. 13h06, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Après la pause, on jase avec notre chum Mathieu Thomassin, que je pense qu'il est en direct de New York. On va aller jaser.